Chapitre 17. Comment avouer cela ? Tu devines bien, mon ami, que, d'après une pareille lettre, Madame de Linval ne put pas douter un moment, en nous voyant paraître chez elle, que nous ne fussions, mon père, le mystérieux financier Dormont, et moi, la jeune personne jolie mais gauche, qui passait pour sa fille. De là, tant d'égards, d'instances, pour nous forcer de rester. Puis l'envoi du portrait à mon père et ses demi-confidences, ses entretiens fameux, en un mot, tout ce manège d'une coquette piquée de ce qu'un homme prend des détours pour l'éprouver. Le billet par lequel on avertissait mon père des dangers que je courais avec un séducteur était aussi dicté par elle. C'était un moyen de rendre suspecte à Dormont la fidélité de sa maîtresse et de fixer les regards sur l'aimable objet qui voulait le séduire. Madame de Linval s'était aperçue de la passion naissante de Saint-Ange et c'était de lui dont elle voulait parler dans son perfide billet. Je n'ai jamais conçu, par exemple, comment le commandeur et son neveu se trouvaient dans cette maison suspecte. Cependant, si l'on en croit certaines chroniques anciennes sur le commandeur, il n'était pas étranger tout à fait à la maîtresse du logis. Quant au neveu, il suivait son oncle, à qui il était soumis, et tu verras bientôt que, malgré la pureté de son cœur, ses mœurs se ressentaient de l'air qu'on respirait dans cet asile de la débauche. « Oh, ma mère, vous n'y auriez pas laissé votre fille une seule minute !» D'après le dernier entretien, dans lequel elle avait demandé à mon père s'il n'était pas Dormont, quoique mon père eût nié, eût plaisanté même de son erreur, Madame de Linval ne fut pas détrompée. Mais persuadée que le prétendu Dormont rejetait sa main et la dédaignait puisqu'il voulait la fuir, cette femme scélérate avait médité une vengeance horrible. Pour l'exécuter, il fallait nous engager à rester 2 jours de plus et c'est ce qu'elle obtint du trop facile d'Héranville. Engardie par cette promesse, persuadée plus que jamais que mon père est Dormont et moi une prostituée apparemment, car il faut dire ce mot, quoi qu'il me fasse rougir, la méchante de Linval fait soudain assembler son comité de débauchés, composé de Duvilliers, de Lorneville et d'une femme digne de ses scélérats. Là, elle le raconte, en versant des larmes de dépit, que le malheur des temps, son peu de fortune, l'ont engagée à rechercher la main du riche Dormont, qui même était devenu amoureux d'elle. Elle leur apprend tout ce qui s'est passé entre ce Dormont et elle depuis qu'il est dans sa maison, et finit par implorer leur secours pour se venger d'un volage et d'une petite fille qui le domine. « Ma foi, dit Duvilliers, c'est sur la petite fille que je voudrais me venger. »« Et moi aussi, ajoute Lorneville. » L'idée de se venger sur la petite fille fait rire ces dames aux éclats, et le complot se forme ainsi que tu vas le voir exécuté. « Tu frémis, Jeannette, dans un moment, tu me plaindras bien davantage. » Le soir, à souper, Madame de Linval, qui, depuis le matin, avait changé de ton, de caractère avec nous, demanda à mon père s'il persistait dans son projet de partir le surlendemain. « Madame, lui répondit mon père, je serai parti aujourd'hui sans la promesse que je vous ai faite, je ne sais pourquoi, de rester 2 jours encore. »« Vous ne savez pourquoi, monsieur ? Ma conduite vous le dira, ce pourquoi singulier qu'un homme honnête comme vous n'aurait pas dû laisser échapper de sa bouche. Pardon, monsieur, de ce léger mouvement de ma sensibilité, ce sera le dernier. » Mon père ne répondit rien, il m'a avoué depuis que, sans la faiblesse qu'il avait eue de retarder son voyage, il serait parti dès ce moment-là. Il était facile, en effet, à Madame de Linval, puisqu'elle croyait que mon père était Dormont, que ce Dormont était bien loin de lui prouver de la tendresse et même de l'estime. Quoi qu'il en fût, elle dissimula et proposa pour le lendemain une fête, un bal, afin de faire les adieux à Monsieur de Saint-Brice. Je remarquai qu'elle appuyait avec affectation sur ce nom, ce qui me persuada qu'elle n'était pas encore désabusée. On ne parla plus que des détails de la fête préméditée et chacun se retira chez soi. Mon père parlait peu et, sans doute, ennuyé du genre de vie qu'il menait depuis quelques jours, il s'en voulait intérieurement de s'y être livré, surtout ayant avec lui sa fille, des yeux de laquelle il devait éloigner soigneusement tout tableau un peu cynique. Moi, je dormis fort bien, me réjouissant de l'idée que je verrais le lendemain mon cher Saint-Ange et que je danserais avec lui. À peine éveillée, Madame de Linval me fit appeler. Il était question de bonnet, de toilette, c'était une grande occupation. Elle me fit plus d'amitié qu'à l'ordinaire, mais néanmoins d'un air cavalier qui me surprit sans trop me choquer. Elle présida elle-même à mes ajustements et à chaque personne qui entrait, elle disait « Est-elle jolie comme ça, hein? Fera-t-elle tourner des têtes? Allez, elle aura plus de conquêtes qu'elle n'en voudra. » Le dîner fut gai. On but à la santé de M. de Saint-Brice, mais avec une certaine ironie qui n'échappa pas à mon père ni à moi. On dansa. Je fus fêté, choyé, vanté avec exagération, et je me serais plaint volontiers de l'excès des éloges de tout le monde si Saint-Ange ne m'eût tenu une fidèle compagnie et ne m'eût charmé par des propos moins flatteurs mais plus vrais. Saint-Ange, cependant, ne me parut ni aussi galant ni aussi honnête qu'à son ordinaire. Il me parlait d'une manière un peu libre et souriait en cœur avec les autres en me regardant du coin de l'œil. Hélas, on avait débité au pauvre Saint-Ange le compte absurde que j'étais une aventurière, maîtresse et non-fille du financier d'Ormont, etc., et le crédule Saint-Ange avait donné tête baissée dans ses horribles calomnies. Le bal finit. On servit un souper si beau, si prolongé, où les vins furent prodigués avec tant d'abondance que, vers la fin, tous les convives se trouvèrent en avoir trop pris. Duvilliers, Lorneville, étaient dans le dernier état de l'ivresse. Mon Saint-Ange était plus qu'étourdi, et j'eus la douleur de voir mon père lui-même, mon père qui usait de tout avec sobriété, s'endormir comme un homme qui a fait un excès. Je me sentis bientôt à mon tour dominé par le sommeil, et croyant cet état naturel, je demandai à me retirer. « Non pas, mon ange, me dit Madame de Linval, qui seule avait conservé sa raison. Non, s'il vous plaît, vous n'irez pas seul, vous coucherez dans ma chambre cette nuit. Voyez donc tous ces hommes. Oh mon Dieu, j'ai une si grande peur des ivrognes. Je ne dormirai pas. Vous me rendrez ce service, n'est-il pas vrai, mon cœur ?»« Madame, mon père, s'il se trouvait indisposé cette nuit, je voudrais ne pas le quitter. » Cela serait naturel s'il n'y avait pas du monde, mais il a Comtois, Saint-Louis, et je vais lui donner Champenois, qui veillera près de lui. Oh, c'est un serviteur unique, vous pouvez vous reposer sur ses soins. Venez, ma belle. » J'insistais pour voir mon père se mettre au lit. On me le permit, mais soudain, mes paupières s'appesantirent, et je ne pus ni agir ni parler. Frémis, Jeannette, les barbares avaient mis dans mon verre une poudre plus que narcotique. L'effet en était tel qu'elle donnait au sommeil toute la quiétude de la mort, sans arrêter la circulation du sang, sans nuire aux principes ni aux effets de la vie. On me transporta, dans cet état d'impassibilité, jusqu'à un appartement voisin de celui de Madame de Linval, où l'on me mit au lit. On laissa ensuite la porte de ma chambre ouverte pour me laisser en butte aux insultes des jeunes libertins à qui on avait donné carte blanche pour me déshonorer. Cependant, par un effet de la justice divine sans doute, qui ne permit pas que l'innocence devînt la proie du crime, ces misérables avaient pris tant de vin qu'il leur fut impossible de songer à autre chose qu'à dormir. Duvilliers, Lorneville et leurs dignes camarades ronflèrent sans pouvoir s'éveiller jusqu'au lendemain. Un seul, Jeannette, dois-je te confier cette particularité ? Un seul, le jeune Saint-Ange, malgré son état d'ébriété moins fort que celui des autres, rôdait à ce qu'il m'a dit depuis pour me défendre, car il savait le projet de vengeance sur la petite fille. Et, loin d'y entrer, il l'avait combattu. Saint-Ange, ah, Jeannette, Saint-Ange trouva ma porte ouverte, il entra, guidé par la lumière qu'on m'a laissée, et le cruel, loin de me défendre, de me protéger dans un état d'ailleurs de déraison, le méchant, dis-je, se laisse entraîner par la passion, le lieu, l'heure, le silence, et... Oh, Jeannette! Tout engourdi que j'étais par le narcotique mortifère qu'on m'avait fait prendre, il me sembla qu'un rêve bienfaisant me rapprochait de Saint-Ange. Il me parlait de son amour, et même un baiser qu'il osait me donner me plongeait dans une espèce de ravissement. Voilà, Jeannette, voilà tout ce que je puis me rappeler de cette nuit de déshonneur où un jeune étourdi, hors de raison, convaincu d'ailleurs qu'il avait affaire à une ville intrigante, déjà déshonorée 100 fois, osa... C'en est assez, suivons le cours de cette fatale aventure.